Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org. Est avec nous aujourd'hui Stéphane Lecourtois. Stéphane, qui êtes-vous ?
Alors ça, c'est une question qui est très difficile quand même, malgré tout.
Oui.
Alors moi, je vais parler un peu de mon parcours, qui est un peu particulier. J'ai commencé avec deux BTS, électronique et électrotechnique. J'ai voulu lier mes convictions et mon métier. Je voulais rentrer dans les énergies renouvelables. Moi, j'ai fini mon BTS, c'était en 2009, crise économique, patatras, j'ai dû chercher ailleurs et je suis devenu prof. Je suis devenu prof de technologie en collège et j'ai eu cette chance-là. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que j'ai eu besoin de m'exprimer d'une façon différente. Enfin, voilà. Même si l'enseignement, j'adore, j'ai eu besoin de m'exprimer au travers de l'écriture, notamment, et du dessin. Et donc j'ai commencé à... Donc d'abord c'était à griffonner quelques idées et puis j'ai fini par écrire un roman que j'ai publié l'année dernière sous le nom de La Liberté élégante en auto-édition. Et cette année j'enchaîne avec dans un tout autre registre plutôt très léger une BD sur une parodie de super-héros breton. Donc voilà, j'ai dessiné cette BD, j'ai scénarisé, j'ai colorié et j'ai fait en auto-édition.
Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais avant, le métier de professeur, c'est presque une vocation.
Oui, je pense. Alors, j'ai pas suivi le cursus pour devenir prof. Pourtant, je me rappelle que quand j'étais au lycée, j'ai eu cette envie de devenir prof. Mon cursus a fait que je suis devenu prof, je suis rentré par la porte de derrière, et ça me va tout à fait. Je pense qu'on ne fait pas ce métier pour l'argent. Ou alors quand on le fait, je pense qu'on le vit mal.
Je pense que vous avez eu des satisfactions, que vous avez encore des satisfactions, les élèves.
Ah bah oui.
Les élèves, surtout en techno. Le professeur est quand même plus proche d'eux parce qu'il y a de la théorie, mais il y a aussi un peu de pratique, on touche à quelque chose, ce n'est pas les mathématiques.
C'est ça, alors je touche des élèves que les mathématiques pourraient toucher plus difficilement par exemple. Et donc effectivement j'ai un autre rapport avec eux. Et même dans notre manière d'aborder la pédagogie, en fait on fait quasiment que des travaux de groupe. On fait beaucoup de pratiques, comme vous dites. Et puis en plus de ça, on est beaucoup centré sur l'environnement informatique. Alors tous les aspects positifs et les aspects négatifs. Mais pour les apprentissages, c'est quand même un outil qui est très intéressant, l'informatique.
Et la vie du groupe jeune, comme ça, du groupe d'élèves qui travaillent ensemble, il n'y a pas des surprises parfois entre les gens qui s'arrangent, qui ne s'arrangent pas, ceux qui travaillent, ceux qui attendent?
Alors moi, je structure mes cours en sorte que tout le monde doit réaliser une tâche. Donc quand j'évalue un groupe, un travail de groupe, j'évalue pas le travail du groupe, j'évalue chaque personne dans le groupe. Ce qui fait qu'à la fin, on a une production qui est collective, certes, mais l'évaluation est individualisée, quand même, malgré tout. Donc la personne qui... Comme dans la société, en fait, il y a des gens qui en profitent et qui ne font rien, mais du coup, elle sera malgré tout sanctionnée. Et ça ne va pas pénaliser la personne qui va travailler à côté, elle ne va pas faire le travail de tout le reste du groupe.
Le programme de technologie aujourd'hui, il est axé beaucoup sur l'informatique ?
Il y a beaucoup d'informatique quand même. Il y a beaucoup d'informatique, de programmation. Alors je pense qu'il y aura une réflexion. C'est sur l'informatique, mais aussi sur le développement durable.
Ouais. Et vous êtes en Bretagne, vous êtes venu en Bretagne, ou vous habitiez avant en Bretagne ?
Moi, je suis breton. Je suis breton, et par contre, j'étais surtout sur la côte sud. Je suis né à Vannes, et j'ai vécu toute ma jeunesse à Auray, et j'ai migré vers le centre Bretagne.
Et la Bretagne pour vous ?
Alors la Bretagne pour vous, pour moi, moi c'est avant tout mes racines, je suis fils de Breton, fils de Breton, petit-fils de Breton et arrière-petit-fils de Breton et peut-être encore, on n'a pas encore creusé après, mais la connexion culturelle avec la Bretagne est venue un peu tardivement, je dirais, dans ces 10 dernières années, quand je suis arrivé en Centre-Bretagne plus particulièrement. Parce que la Bretagne, c'était surtout le folklore sur la côte sud, pour moi en tout cas, quand la vie que j'ai vécue. Et quand je suis arrivé dans le Centre-Bretagne, j'ai vraiment découvert cette culture, notamment par le biais des fest-noz, qui m'a vraiment accroché. Je trouvais que ce mélange générationnel, culturel aussi, et social, ça m'a vraiment parlé. Et ça m'a reconnecté aussi avec mes racines, puisque par ce biais-là, j'ai rencontré des gens qui parlaient breton, qui chantaient en breton dans les bars, et qu'on faisait des gavottes dans le bar. Et je me disais que à ce moment-là, en fait, c'est la langue de mes ancêtres, que je ne parle finalement pas, que j'essaie d'apprendre au fur et à mesure, il faut que je trouve le temps. Mais c'est vrai qu'il y a une connexion particulière.
Il y a quand même un fossé entre la région vannetaise, et la région de Guéméné, Fawet, en fait, toutes ces régions du Centre-Bretagne.
Le Kreis-Breiz.
Le Kreis-Breiz.
Ouais, il y a vraiment un fossé. La Bretagne, moi, c'est mon sentiment. Hein. La Bretagne, c'est plus sur la côte sud. C'est devenu un folklore. Et dans le Centre-Bretagne, c'est une réalité. On le vit. On le vit, la Bretagne. Les gens parlent encore breton. Les gens vivent encore la culture bretonne. C'est très présent, c'est très ancré. Mais justement, je pense que ce petit centre, ce petit lieu qui est préservé a toutes ses chances de rayonner dans un avenir plus ou moins proche sur la côte, en fait.
Et c'est ce qui fait, je crois, qu'il doit continuer. Enfin, on n'a pas de jugement à formuler ni des conseils à donner. Mais je pense que quand on reste vrai, quand on reste authentique, quand on fait les choses comme on le sent, on a plus de chances de réussir que de vouloir copier.
Tout à fait, je suis complètement d'accord.
Et que il y a quand même un certain nombre de touristes qui viennent voir des manifestations en Centre-Bretagne, qui commencent à comprendre, qui comprennent même assez bien aujourd'hui, que ce qui est fait là, c'est pas fait pour eux, c'est fait parce que les personnes ressentent profondément. Mmh. Et c'est en fait l'âme bretonne qui ressort. Exactement. Sur ces activités.
Exactement, une âme qui est vivante, hein, puisqu'elle évolue au fil des années, et elle garde son identité tout en allant chercher ce qui se fait ailleurs. On le voit, c'est flagrant dans les fest-noz, puisqu'on reste pas sur la musique traditionnelle. Elle évolue vachement, la musique bretonne. Et elle se marie très bien avec du hip-hop, avec Chris Men et Alem. Elle se marie très bien avec du punk, avec quand on entend les Ramoneurs de Menhir. Et toutes les sonorités diverses et variées qu'on retrouve dans le monde.
Le sentiment qu'on s'ennuie en Centre-Bretagne, heureusement qu'il passe de mode. Et fut un temps, il y a 30-40 ans, aller au Centre-Bretagne, ça voulait dire aller dans l'ennui. Aimer l'ennui, la solitude. Or, c'est peut-être une richesse.
C'est une richesse. Alors déjà, je pense que l'ennui peut être une richesse. L'ennui n'est pas forcément quelque chose de négatif. Hein. C'est, ça permet de créer, ça permet d'être créatif. Et par ailleurs, non, le Centre-Bretagne, c'est vraiment pas un endroit où on s'ennuie. Il suffit de rentrer dans les réseaux et après, c'est des réseaux différents. C'est sûr qu'on n'ira pas à l'opéra ou je ne sais pas. Mais c'est des réseaux qui sont... On ira plus dans des lieux un petit peu plus alternatifs. Moi, je trouve que c'est une sorte d'underground, en fait, en Centre-Bretagne. C'est peut-être curieux de dire ça, mais on est quand même à la croisée de plusieurs chemins, de plusieurs vies, et ça crée un mélange très particulier qui est spécifique à la Bretagne, au Centre-Bretagne.
Et la création dans tout ça, vous êtes venu à en faire davantage, en fait, avec vos ouvrages, vos livres. Comment vous êtes décidé un jour à publier? Parce qu'écrire, vous l'avez peut-être fait avant, mais à publier.
Alors déjà, écrire, j'ai pas écrit avant, c'est venu comme ça. Je pense que le fait de vivre en Centre-Bretagne m'a vraiment inspiré dans l'écriture, dans le dessin aussi. Qu'est-ce qui m'a amené à publier? C'est ça votre question?
Ouais.
À publier, c'est les gens qui m'ont dit autour de moi, en fait, j'ai commencé, c'est vraiment un peu le fruit du hasard, j'ai commencé par un petit personnage que j'ai appelé Brezman. Et au fur et à mesure, j'ai fait une petite histoire qui a fait une page autour de Brezman. Et puis les gens m'ont dit, ils ont trouvé ça drôle. Et puis j'en ai fait une deuxième, ils ont trouvé ça drôle. Et puis au fur et à mesure, ils m'ont dit, va plus loin. Et quand je commençais à avoir une dizaine de pages, maintenant, sors une BD, fais une histoire. Et puis j'ai dû recouper tout ce que j'avais déjà fait, essayer de recadrer. Et puis j'en ai sorti une histoire. Et, Et au bout d'un moment, je pouvais plus reculer. Je devais aller jusqu'au bout et le sortir en format physique, quoi. Mmh. Je pouvais plus la laisser en format virtuel et je devais, comme j'avais déjà l'expérience de publier avec mon premier livre, je me suis dit je vais aller jusqu'au bout.
Et votre premier livre, le titre, vous nous avez dit
La liberté élégante.
La liberté élégante. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre?
Alors on parlait du Centre-Bretagne, il y a beaucoup de vécu du Centre-Bretagne aussi, même si c'est une fiction. Il y a une inspiration de ma vie. Et qu'est-ce qui se cache? En fait, c'est plusieurs personnes qui vont se retrouver, qui vont avoir envie de changer les choses. Elles se disent à un moment donné, c'est bien beau de vouloir changer le monde dans nos têtes, mais est-ce qu'on ne pourrait pas le faire concrètement? Et elles vont franchir le pas, elles vont aller plus loin et elles vont décider de suivre leurs propres aspirations et de vivre selon leurs propres règles. Et elles vont créer plusieurs sociétés parallèles à notre société. Et donc, on va suivre ces différentes sociétés, comment elles se forment, comment les gens interagissent à l'intérieur de ces sociétés.
Associer liberté et élégance, ça peut paraître curieux, mais ça ne l'est pas.
Alors, bon, l'histoire du titre, c'est un petit peu long. Je ne sais pas si on aura le temps de l'expliquer. Pour le coup, non. Je me suis inspiré d'un livre qui est un livre de science et dont l'objectif était de réunir toutes les théories scientifiques. Et moi, mon objectif, c'était de réunir toutes les théories qui tournaient autour de la liberté. Voilà pourquoi la liberté élégante. Le titre du livre, c'était La théorie élégante de l'univers. Et moi, c'est la liberté élégante pour réunir toutes ces différentes théories qui tournent autour de la liberté.
Vous aviez donc écrit ce livre. Arrive alors le stade de la publication. Comment vous avez procédé pour celui-là, La liberté élégante, avant d'en venir à votre bande dessinée?
Alors, comment je m'y suis pris? Moi, j'ai tâtonné, j'ai beaucoup tâtonné. J'ai été voir sur Internet. Moi, j'apprends en faisant, comme ce que j'enseigne avec mes élèves. Je leur apprends à apprendre en faisant. Et moi, j'apprends en faisant. Et j'ai été voir quelle imprimerie pouvait m'imprimer mes livres. J'ai essayé de commander en gros pour réduire les coûts. Peut-être, je ne sais pas si c'est de la folie ou si c'est parce que je crois en ce que je faisais, je ne sais pas trop. Mais voilà, j'ai imprimé 250 exemplaires l'année dernière. Jusqu'ici, j'en ai vendu 210 pour l'instant. Sans réseau, parce que j'ai pas de réseau de distribution, c'est moi qui les vends tout seul en fait. Et donc ma BD.
Et la BD, vous avez suivi le même chemin?
J'ai moins tâtonné puisque j'avais quelques angles d'attaque, mais j'ai changé d'imprimerie. Je suis passé par une entreprise qui fait des services en fait, et c'est elle qui va chercher les entreprises qui pourraient faire le moins cher, donc c'est meilleure impression. Et là c'est pareil, j'ai suivi le même schéma, j'ai acheté 250 exemplaires, donc il faut un espace pour stocker ces exemplaires. Et puis après on a déjà créé un petit peu ces réseaux et puis continuer à les vendre sur les marchés, notamment sur les salons du livre, et puis aller en librairie aussi pour faire du dépôt-vente ou peut-être même que les librairies achètent directement.
La technique de la bande dessinée, elle apparaît aux yeux de beaucoup, à moi pour commencer, comme une technique qui demande à faire une quantité importante d'exemplaires pour avoir des coûts disons raisonnable pour l'instant. Et la deuxième contrainte, c'est la qualité des couleurs qui figurent sur les exemplaires. C'est pas trop difficile à gérer, ça?
Alors, il y a une étape dont j'ai pas parlé encore, c'est en amont, je suis passé, que ce soit pour La Liberté Élégante ou pour la BD Braise à Rose, je suis passé par un financement participatif. Ce qui permet d'amorcer déjà le prix d'achat. Donc, le financement participatif, grosso modo, c'est les gens qui vont faire des précommandes. Et une fois que les précommandes sont réalisées, on a quand même une certaine somme pour pouvoir après acheter les livres. Donc, ça rassure un petit peu, ça nous donne un petit fond. Après, pour ce qui est des couleurs, ouais, c'est un peu... Donc c'est un peu délicat pour la BD parce que ce qu'on voit sur notre ordinateur n'est pas forcément la même chose que ce qu'on revient, que ce qu'on a à l'impression. Donc en fait, il faut faire des tests, faut demander à l'impression à l'imprimeur ce qu'on appelle des BAT. Donc c'est des versions test, des versions bêta, pour savoir si la couleur nous plaît. Et puis après, on ajuste au fur et à mesure, quoi.
Sur le plan technique, avant de préparer justement le BAT, il faut fournir à l'imprimeur un document, un PDF ou un document quelconque. Qui vous a réalisé ce document? Est-ce que ça a été fait par un service particulier ou...
Alors effectivement, alors ça dépend des imprimeurs parce que les premiers que j'ai faits, c'est moi qui me chargeais de faire le PDF. Mais le deuxième imprimeur m'a demandé des choses très spécifiques que je ne savais pas faire avec mes moyens. Donc ils m'ont proposé de le faire en rajoutant en rallongeant un petit peu de l'argent. Mais c'était pas si excessif. C'est notamment au niveau du noir, en fait, il fallait un noir pur. Mmh. Et le noir pur, il n'y a qu'un logiciel qui sait le faire et puis il faut le maîtriser. Je ne maîtrisais pas ce logiciel-là et il est payant en plus. On a la première semaine gratuite et la deuxième après c'est payant. Et moi j'avais pas le temps de maîtriser ce logiciel-là en une semaine et de faire du noir. Donc c'est l'imprimeur qui le réalise.
Oui. C'est important de mettre le doigt là-dessus parce qu'on a l'impression qu'en quadri, fait de la quadri, ben voilà, ben il est en couleur, le PDF est en couleur. Et après, cette histoire de noir pur, il peut surprendre pas mal de gens, en fait.
Effectivement, ben, moi le premier. Moi je disais, ben, c'est noir. Ah, non, en fait, c'est pas vraiment noir, monsieur.
C'est ça.
Et je comprenais pas trop ce qu'il disait. Et puis à un moment donné, en fait, j'étais pressé au niveau du timing. C'était comme je suis prof aussi. Je peux pas tout faire. Non. Donc à un moment donné, j'ai délégué la tâche et j'ai demandé à l'entreprise de faire. Alors effectivement, ça coûte un petit peu plus cher, mais des fois, ça vaut peut-être le coup si on est sûr de son projet, si on est sûr de soi, qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Bah, ça vaut peut-être le coup d'investir un petit peu et puis d'aller jusqu'au bout de son projet.
Je trouve que c'est réconfortant et rassurant à la fois quand on achète un produit. Ce produit, ben, le concepteur et celui qui en a fait une partie, il sait en faire une partie, mais il ne sait pas faire les autres parties. Et qu'on soit, je crois que c'est une preuve d'humilité en fait, hein, qu'on soit assez humble pour dire ça je sais faire, mais ça je ne sais pas faire. Donc je choisis quelqu'un qui a les compétences pour faire ça.
Bien sûr, on sait pas tout faire et puis dans nos vies on est pris par d'autres impératifs, donc à un moment donné, effectivement, on est obligé de passer par l'aide de quelqu'un d'autre.
Cette démarche au niveau du livre n'est pas forcément habituelle, elle est courante maintenant, mais n'est pas forcément habituelle ni instinctive. On ne le fait pas d'instinct. J'ai écrit un livre, moi je sais mettre en page, en Word, c'est pas de la bande dessinée, mais c'est pareil pour un texte. Je l'ai fait, moi, voilà mon livre. Et effectivement, ça fait une sacrée différence avec celui qui a contacté un graphiste, quelqu'un qui sait faire. Voilà, ça, c'est toute la différence. Et ensuite, sur une autre partie, c'est la mise sur le marché, la vente. Vous avez dit tout à l'heure que vous arriviez sur des marchés, libraires et autres. Et quels sont les arguments que vous mettez en avant, par exemple, auprès d'un libraire?
Alors, auprès d'un libraire, j'ai fait... Jusque-là, j'ai fait trois libraires. Je tiens à le mettre en avant quand même, le premier, parce que c'est la première personne qui m'a fait confiance. Et c'est la librairie Pendaben à Quimperlé, qui est une très chouette personne. Et Pendaben, à vrai dire, je m'avance peut-être trop, mais j'ai eu l'impression qu'elle a été convaincue par le projet assez rapidement. Donc j'ai présenté en fait ce que j'ai fait. J'ai montré quelques pages numériques déjà. J'ai montré aussi, c'est vrai que j'avais contacté la presse et la presse aussi a été intéressée par ce que j'avais fait. Donc à partir de là, j'ai eu juste à me déplacer, et à présenter mon projet, mon produit fini en fait. J'ai fait la même démarche avec le espace culturel de Carhaix, c'est en cours, et l'espace culturel de Auray. Et c'est acté, l'espace culturel de Auray. On peut trouver la BD en dépôt-vente à l'espace culturel de Carhaix et à la librairie Pendaben à Quimperlé, Braise-à-Rose.
Un petit coucou à Marie-Jo de la librairie Pendaben de Quimperlé, parce que la chronique en breton que je fais sur Bretagne 5 tous les jours à 8h15 s'appelle aussi Pendaben. Sur la présentation d'un ouvrage, quel qu'il soit, l'auteur a déjà un peu de mal des fois à présenter son ouvrage, ce qui est normal. Mais il y a des éléments de la bande dessinée sur lesquels vous vous appuyez sûrement pour présenter votre BD.
Alors, je pense qu'en fait, c'est vrai que mon livre, je ne pourrais pas le mettre aussi facilement que ça en librairie. La BD, il y a le visuel, c'est quelque chose que je pense c'est un extraterrestre en fait. On peut pas le classifier, c'est quand même du dessin qui est proche du manga, donc qui reprend la culture manga qui plaît aussi aux jeunes, hein. Manga comics. C'est au format BD, donc ça a beau être d'inspiration manga, c'est le format BD, et en plus c'est sur une parodie de super-héros breton. Donc je pense que soit on se dit c'est un petit peu tendu là-dessus, soit on dit bon bah ok, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'auteurs qui aient développé ce concept-là.
Non, mais le fait d'être unique, je trouve que c'est une bonne chose pour proposer une nouveauté, ça veut dire, sous tous les aspects. Et cette nouveauté, et qu'est-ce qu'il a ce héros de Braise?
C'est une parodie, quoi. Il est maladroit, il a des super pouvoirs. Alors, il y a plusieurs super héros. Il y a Braise-Man, Man avec deux N, donc pour nul, zéro. Il y a Braise-Girl, qui est une personne âgée quand même. Et il y a aussi Super Aman, donc Aman le beurre. Et ils sont tous un peu ridicules en fait. Et ils ont des super pouvoirs très loufoques, voire pas super, de super pouvoirs du tout. Et puis avec des super méchants qui sont complètement improbables. Et je pense que avec des références ici et là, soit à la Bretagne, soit aux Parisiens aussi, évidemment, les Parisiens en prennent un petit peu pour leur grade, et aux touristes en général, et puis les Bretons aussi, ils en prennent un peu pour leur grade, et puis voilà, l'idée c'est de rigoler, je pense que c'est ça qui plaît aussi, c'est ce que j'essaie de mettre en avant aussi, c'est un livre qui est très très léger, qui est pas censé, y a pas un message particulier, c'est pas clivant, même si on est parisien en fait, je pense qu'on peut apprécier cette BD, et je pense que ça touche plusieurs publics. J'ai dit que c'était très inspiré des mangas, mais en fait moi, mon père qui est pas du tout manga, il a lu, il a trouvé drôle aussi, donc je pense, même s'il y a des références ici et là, même si on les connaît pas, ça permet de rire quand même.
Ouais. Les mangas, juste un petit mot pour nos auditeurs. Les mangas, c'est japonais. C'est basé comment pour les gens qui ne les connaîtraient pas?
Alors, pour les gens qui...
C'est du dessin?
Ouais, c'est du dessin. Pour situer, qu'est-ce que c'est que
le manga? Le
manga, moi, c'est une BD japonaise. C'est juste les traits qui sont d'inspiration manga et quelques inspirations au niveau des jeux vidéo et des... Et de quelques BD japonaises, du coup. Ouais. Donc, on en trouve. Donc, il y a des références, par exemple, bon, pour les auteurs, à Dragon Ball Z, par exemple. À Pokémon aussi. Je pense que Dragon Ball Z, tout le monde connaît un petit peu. Pokémon, tout le monde connaît un petit peu et peut avoir ces références-là, même s'ils n'ont jamais lu Dragon Ball de leur vie.
C'est un Braise moderne.
C'est un Braise moderne.
Ça peut rassembler, malgré tout.
Je pense que ça peut rassembler. Je pense que ça peut le rassembler très largement, en fait.
Parce que les Bretons sont assez claniques. Ils ont toujours été. Ils sont encore restés un peu sur le plan de la langue, notamment, et voire un peu de la culture.
Et du Guenadu.
Du Guenadu, ouais. Et le fait, justement, d'avoir un personnage qui prend l'anti-Bécassine, pour pas le dire, hein, voilà. Ouais. Puisque la Bretagne, quand on parle Bécassine, ça a 50 ou 60 ans, mais ça fait rien. Ça a fait l'unité contre, mais l'unité quand même.
Ouais.
Et là, c'est le Braise qui, positivement, pose le Breton dans son unité.
C'est possible. Après, je ne veux pas parler au nom des autres non plus. Je n'ai pas cette prétention. Mais ça pourrait, je pourrais dire ça pourrait.
Je pense.
Ça pourrait. Et vous dites l'anti-Bécassine, c'est vrai que même s'il s'appelle Breizman, donc Breiz nul en fait, mine de rien, il y a quand même. On s'attache à ce personnage-là. Et il est. Bon, j'envisage la suite, hein, un tome 2, mais il n'est pas que nul.
Ouais, mais je pense qu'on dira Breizman, mais beaucoup ne feront pas la différence. Ils diront Breizman.
Oui.
Et.
Oui.
L'homme breton, quoi. Le breton, le mec, quoi.
C'est ça.
Et c'est, je trouve que c'est un bon argument, de, pas seulement commercial, mais il porte, ce titre porte en lui-même quand même, là, on parlait tout à l'heure de l'âme bretonne, mais il porte en lui une part de la Bretagne.
Ouais, bah
et il va faire son chemin, n'en doutons pas. Donc, la qualité du dessin, c'est vous qui avez dessiné ?
J'ai scénarisé, dessiné, colorié, imprimé, la vente, le service après-vente.
Et ça vous donne satisfaction, je suis sûr ?
Ah bah, c'est sûr qu'on a une certaine fierté, hein, quand on reçoit la BD et qu'on a surtout le retour des autres. Moi, comme j'étais au Salon du Livre à Calac, et donc j'ai vu les jeunes qui tournaient autour et je voyais qu'ils se marraient autour de ma BD. Alors, c'est sûr qu'on est fiers. On est fiers, on est satisfaits de ce qu'on a réalisé, oui. Même si peut-être que j'en suis qu'au début, peut-être que je suis à la fin, j'en sais rien, je sais pas du tout où j'en suis dans ce processus-là.
Les jeunes et les moins jeunes, hein, parce que j'ai vu de vos collègues auteurs qui l'avaient acheté et qui se marraient bien aussi en lisant, et je crois que c'est ce côté Breiz qui les a convaincus, et bien sûr à l'intérieur aussi, à la lecture, c'est la qualité. Et pour terminer, parce qu'on va arriver au bout de l'entretien, mais je pense qu'un auto-éditeur est tenu à faire de la qualité, c'est indispensable.
C'est vrai que bah, c'est pas facile, puis comme je dis, je suis limité dans le temps, mais on essaie de faire au mieux au niveau de la qualité quand même.
Mais félicitations. Et vous avez réussi votre ouvrage. C'est la satisfaction aussi d'avoir réussi, d'avoir travaillé pour y arriver. On n'arrive pas comme ça.
Non.
Il
faut passer du temps, faut sacrifier certaines. Enfin, faut faire des choix en fait dans la vie. Et il faut travailler. C'est vrai que c'est la clé de la réussite.
Et longue vie à Breizman.
Et Breiz Arose. C'est parce que le titre de la BD, c'est Breiz Arose.
Ah. Pardon, Breiz Arose.
Mais le personnage, l'un des personnages principaux, c'est Breizman.
Alors, longue vie aux deux. Vous nous dites où on peut se le procurer ?
Avec moi.
Ouais.
Alors, j'ai un site, Wixit. De toute façon, on cherche sur Internet Breiz Arose. Et on peut l'acheter en comment dire, bon, il y a les frais de port qui sont inclus.
Ouais.
Ensuite, on peut se le procurer à l'espace culturel de Leclerc, de Auray. On peut se le procurer à Pendaben, à Quimperlé. Et prochainement, j'espère, enfin, a priori, il n'y a pas de problème, se le procurer à Carhaix, à l'espace culturel de Carhaix.
Bientôt dans toutes les librairies de Bretagne et d'ailleurs.
Alors, s'il y a des libraires qui sont qui veulent me contacter, qui sont à l'écoute, peuvent me contacter.
Donc, Stéphane Lecourtois. C'était Un auteur, une voix avec écrivainbreton.org. Nous recevions Stéphane Lecourtois.
Merci beaucoup.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.